Très vile PM. Politique.
Les gens veulent du changement, puis c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance à ce changement-là. On va le faire dans l'ordre, mais on va appliquer le programme qu'on a promis en campagne électorale. Rien de plus, puis rien de moins que ce qu'on a promis en campagne électorale.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ah, c'était François Legault ce matin, donc quelques heures avant de livrer ce discours inaugural à 15 heures. Je vous invite à écouter ça d'ailleurs si vous avez la chance, parce que dans le fond, il va vous résumer en à peu près 45 minutes ce qu'il a l'intention de faire dans les 4 prochaines années. Pour discuter de ça et de bien d'autres choses, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Allô, allô.
Paul, ben vas-y, parlons du discours inaugural un petit peu, hein?
Oui, ben une des choses qu'on devrait apprendre, là, selon mes informations, ça c'est l'identité du premier projet de loi qui sera déposé. Et je crois que ce sera pour la nomination, le mode de nomination du futur commissaire de l'UPAC et aussi de la Sûreté du Québec. Puis ça m'a fait penser qu'à la campagne électorale de 2012, où la Coalition Avenir Québec disait que son premier projet de loi, ce serait pour l'intégrité, puis aussi le gouvernement péquiste, ben, la première mesure législative qu'il avait déposée, c'était pour l'intégrité. Mais même si c'est ça qui va commencer, le bilan législatif de la CAQ, écoute, c'est quand même une part assez minime du discours. Le gros morceau, on le dit, c'est l'éducation. Il faut quand même remettre ça en perspective, là. C'est arrivé combien de fois dans les dernières décennies que le gros morceau d'un discours inaugural, que la grande priorité d'un gouvernement, c'était l'éducation avant la santé.
Moi je dirais c'est les années 60.
Ça fait longtemps.
Les années 60.
Il y a pas mal d'eau sous les ponts. Ouais. Une autre chose que je pense qui pourrait surprendre, les finances publiques, mais c'est étonnant comment soudainement on n'en parle plus, hein, alors que c'était au cœur du dernier mandat, évidemment, libéral, évidemment, si on n'en parle pas, c'est parce que ça va bien de ce côté-là. Puis, vous allez voir, il n'y aura pas trop de surprises, là, selon ce que j'ai compris. Ça reste quand même une priorité électorale de la CAQ pour l'immigration, l'économie, investissement à Québec, etc.
Absolument. OK, ben c'est à suivre à 15h. De toute façon, on pourra débriefer ça demain. Carl, toi d'Ottawa, tu regardes ça avec un certain intérêt?
Ben, c'est surtout les priorités du gouvernement, évidemment, mais c'est surtout ce qu'on retrouvera pas ou ce qui pourrait être dilué. Est-ce qu'on met en place des commissions d'études? Est-ce qu'on met en place des comités? C'est ce qu'on regarde parce que je veux bien croire François Legault lorsqu'il dit qu'il n'y aura rien de plus, rien de moins, là. Mais disons qu'à 15h, on pourra juger et par la suite, on pourra juger encore plus parce que c'est pratiquement impossible qu'on applique à la lettre un programme électoral.
Et moi, ce que je vais surveiller beaucoup aussi, c'est l'environnement. J'ai l'impression que ça a travaillé très, très fort dans les dernières 72 heures, qu'il y a eu pas mal de versions, pas mal de modifications. On le sait, François Legault a parlé hier de l'atteinte des cibles pour 2020. Il dit, écoutez, on ne peut pas s'y engager parce qu'on ne sait pas on est rendu où en ce moment. On ne sait pas non plus ce sera quoi les cibles, si elles seront maintenues pour 2030. Ben, il a l'intention, mais en tout cas, on ne sait pas comment il va s'y prendre. Donc vraiment, là, moi, j'ai bien hâte de voir la version finale de l'environnement, à quoi ça va ressembler.
Oui, à écouter. Donc, et analyser demain. Allons à Ottawa. Parlons de ce député libéral donc, qui a annoncé sa démission, Raj Grewal. Écoute, Carl, ça fait peur. Le gars, il a joué pour des millions de dollars au casino, puis en ligne, c'est ça, des millions de dollars?
Oui, des millions de dollars, puis on le sait parce qu'il y a une fuite qui vient de la GRC. Il y a une enquête de la GRC qui a lieu. Écoute, le mystère s'épaissit tellement. Premièrement, là, comme tu as dit, il a annoncé sa démission, il a pas démissionné. Deuxièmement, ce matin, la confession règle, on se rend compte, le commissaire à l'éthique avait retiré la déclaration de Raj Grewal, la déclaration volontaire, parce qu'à suite à l'annonce, il n'est plus député, donc le commissaire à l'éthique n'a plus juridiction. Et là, ils l'ont remis en place ce matin parce qu'il est toujours député. Donc,
il a annoncé sa démission, mais il n'a pas encore démissionné comme tel. Il est encore député.
Il est encore député. Donc, ça devient une tendance au Parti libéral. Là. Il a dit Diorio aussi à Saint-Léonard qui a fait la même chose. C'est un peu bizarre. Dans son cas, rappelle-toi, les libéraux spinaient que sa démission avait rien à voir avec l'enquête du commissaire à l'éthique.
C'est vrai. Dans le cas de Raj Grewal, oui, absolument. Tu as raison.
Mais là, on se rend compte que c'est peut-être qu'il y a un lien finalement. Parce que, bon, premièrement, le bureau du premier ministre a fini par émettre une déclaration où on a appris que la raison médicale ou personnelle, c'est la dépendance au jeu.
Le gambling, c'est ça.
Exactement. Oui. Deuxièmement, on a appris que la GRC faisait enquête reliée au dossier qui est saisi par le commissaire à l'éthique. Donc, il y a un lien là, certainement.
Mais pourquoi ils font enquête, la GRC? On le sait-tu?
Mais on ne sait pas vraiment, mais entre autres choses, c'est d'où ça vient ces millions de dollars-là.
Mais j'allais te demander, c'est toujours bien pas son salaire de député.
Ben non, ben c'est ça. Et là, le commissaire à l'éthique, on se rappelle, fait enquête à cause d'un possible conflit d'intérêts parce que lui est sur le payroll d'une compagnie dans son comté et il a donné des avantages à cette compagnie-là lors du voyage en Inde Trudeau.
Exact.
Donc là, on se demande, est-ce qu'il y a un lien? Puis l'autre affaire qui a soulevé des soupçons, c'est que l'automne dernier, en comité, Grewal posait des questions très pointues, très précises sur les procédures d'enquête au niveau du blanchiment d'argent. Quel montant on doit dépasser pour que la GRC fasse enquête?
Et pendant ce temps-là, il était peut-être sous enquête déjà par la GRC?
Sous enquête. Ça a soulevé les soupçons de la GRC encore plus, évidemment. Et l'autre affaire nébuleuse, dans la déclaration du bureau du premier ministre, on parle d'une enquête. Écoute, on dit que le bureau du premier ministre n'était pas au courant d'une enquête de la police régionale de Peel.
Peel, ça, c'est dans la région de Toronto.
Or, il n'y a personne d'autre avant ça qui avait parlé d'une enquête de la police régionale de Peel. Alors, comment ça se fait qu'ils sont pas au courant d'une enquête dont personne d'autre n'est au courant? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Et puis là, les questions se posent. Puis on a posé d'ailleurs la question à Justin Trudeau ce matin. Okay. À son entrée au caucus. On peut écouter ce que ça donne.
Obviously, there are many questions about the situation. We wish Mr. Grewal the very best in the healing that he needs to go through. But we're not going to make any more comments.
OK, donc beaucoup de questions. On souhaite bonne chance à M. Grewal pour qu'il guérisse bien et je ne ferai pas d'autres commentaires.
C'est ça. Donc,
c'est un petit peu court, ça.
C'est un peu court. Disons que le ton n'est pas rempli d'émotion, là. Hein? On lui souhaite bonne chance, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de questions, des choses nébuleuses. Puis là, ben, les questions qui se posent au premier ministre, c'est quand est-ce que vous le saviez, qui le savait, comment ça se fait que vous parlez d'une enquête que personne n'est censé connaître, puis que vous, vous dites que vous n'êtes pas au courant, mais vous en parlez en premier.
What did you know? When did you know it?
Exactement. Question clé.
Le classique. En terminant, Paul, d'autres commentaires là-dessus?
Ben, écoutez, j'ai l'impression que ça a été scénarisé par Régent Tremblay. C'est tout à fait stupéfiant.
Non, mais sérieux, hein? C'est très. Tu te dis, le gars, il dépense des millions.
En transactions, notamment au casino, en ligne.
Il est allé à Hull beaucoup, apparemment.
Au casino dans la région. Très beau casino, d'ailleurs.
Du côté de Gatineau, c'est ça.
Mais là, c'est ça. D'où vient l'argent? La GRC se pose des questions. Pas identifié encore la source, la provenance, ou à tout le moins, ne l'ont pas coulé dans les médias.
Mais tu dis, Grim, le gars, il joue. Il n'y a pas personne qui s'est aperçu de ça, à un moment donné. C'est très étrange. OK, on va s'arrêter au retour. On va parler, parlant d'argent, là... Il y a du gros argent, de votre argent, qui est dépensé pour le CHUM puis le CUSUM. Là. Les deux méga hôpitaux là qui se sont faits en PPP, là, on était supposé économiser avec cette formule-là. Et syncope. Vous allez voir après la pause que c'est pas tout à fait ce qui se passe. OK, de retour avec les deux compères, Carl et Paul. Paul, parle-nous de cette histoire donc du Journal de Montréal, là, le gros gaspillage au CHUM puis au CUSUM. Ça fait peur, ça.
Écoute, ça pourrait s'intituler « Comment s'enrichir en branchant un téléphone ». La réponse courte, c'est « Essayer d'avoir le contrat au CHUM ». Parce que c'est un contrat qui est assez lucratif. En fait, c'est des rénovations dans deux établissements, au CHUM et au CUSUM. C'est vraiment pas le genre d'entrepreneur que vous voulez engager. Écoutez, l'entente est invraisemblable. Ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal, là, c'est que les travaux, ils sont négociés des profits puis des frais de gestion de 8 à 26 quand inclut les sous-traitants. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font une petite job, ils s'arrangent pour facturer beaucoup. Des exemples bien concrets, deux prises électriques pour un congélateur, 8 000 $.
Ça, c'est 8 000 $ qu'on a payé nous autres, là.
Oui, écoute, je sais pas c'est quoi ta proportion à toi puis moi, mais on a contribué à ça les deux sans le savoir.
En or, la prise électrique.
Ouais, c'est ça.
Moi, là, c'est la modalité, donc c'est un partenariat public-privé, puis le contrat fait en sorte que chaque fois que tu fais des petits travaux, ben eux autres, ils s'assurent de charger gros des ouvriers qui ont été payés 125 $ de l'heure pour installer des boîtiers. Une modification dans un bureau, 35 000 $. Puis c'est un bon deal, mais ça va durer. L'entente, c'est une entente de 30 ans qui va durer jusqu'à 2047 pour le CHUM, puis 2044 pour le CUSUM.
Mais je pensais, moi, la formule PPP, là, je pensais que le loyer qu'on paye là, aux propriétaires, là, aux privés, là, au consortium, parce que dans le fond, on leur donne de l'argent. On loue l'édifice jusqu'à la fin du contrat, là. Mais je pensais que ça incluait les rénovations, les petits travaux, cet argent-là. Là, tu es en train de me dire qu'on lui paye un gros montant pour occuper l'édifice, puis en plus de ça, on paye pour faire la peinture, puis poser les prises électriques.
C'est ce qu'on apprend avec l'enquête du Journal de Montréal, mais j'imagine que ça dépend de quel type de PPP il s'agit. Là c'est un PPP de type pas peu cher. Je comprends que c'est ça qui a été négocié. Et non seulement ça coûte cher et ça dure longtemps, comme je te l'ai dit tantôt, mais en plus, il a fallu qu'il y ait un véritable travail journalistique pour avoir l'information.
Oui.
Parce que lorsque c'est un PPP, ben ils sont pas assujettis à la loi qui les force à détailler toutes les dépenses supérieures à 25 000 $.
Donc, ils l'information sont pas assujettis à la loi d'accès, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis les données qu'ils ont transmises, c'était juste une somme totale. Fait que, tu sais, si tu dis, je sais pas, moi, tu as eu 40 travaux qui ont coûté 2 millions, ben écoute, je sais pas, peut-être que c'est justifié, mais quand tu commences à fouiller, puis à gratter, puis à essayer de savoir c'est quoi exactement, quel type de travaux ont coûté quelle somme, ben là, tu réalises qu'il y a du gros gaspillage.
Écoute, dans le papier, là, pour ce qui est du CHUM, 3959 places, 59 piastres, dis-je bien, pour marquer le plancher de la morgue. Pour faire une coupe de ligne là, sur le plancher. Pas loin de 4 000 $ pour installer 5 téléphones.
C'est aussi le coût d'achat. Des fois, on n'a même pas besoin d'avoir un travail fait par l'entrepreneur. Il y a des téléphones qui ont coûté 750 $. Selon ce qu'on apprend dans l'article, on pouvait trouver le même modèle trois fois moins cher sur un site Internet.
Moi, j'espère que cette enquête-là, ça va nous faire réaliser en tant que société que les PPP, là, c'est pas la panacée à nos problèmes d'infrastructure publique. Et des problèmes dans le privé, il y en a aussi. C'est pas vrai que parce qu'on donne la gestion du projet et qu'on entre en partenariat avec le privé que ça va mieux aller ou que ça va coûter moins cher. Mais on en a la preuve, là, sur papier.
Tout le moins, tu peux le négocier autrement, ton PPP.
Mais le pire, c'est que moi, j'étais là lors du grand débat, là, moi, je suis rentré en 2007, là, en politique, là. Puis à ce moment-là, là, c'était ça le débat, là. Puis c'était Philippe Couillard qui était ministre de la Santé puis qui défendait la formule des PPP. Puis évidemment, c'était Mme Jérôme Forget. Elle, là, c'était vraiment là, la marraine des PPP. Là. Ça allait régler tous les problèmes parce que finalement, les échéanciers allaient être respectés, les budgets allaient être respectés, puis on allait sortir gagnant. Bien là, on s'aperçoit qu'on s'est fait... Il y a un mot pour ça, là. Ça commence par F puis ça finit par R, là.
Tu sais, c'est... Voyez.
Ouais, voilà, c'est
pas
ça.
Mal,
c'est
pas
ça.
Mal pour voyer, ouais.
C'est ça. Alors, des PPP, en tout cas, pour ce qui est de la santé, là, on disait déjà en 2007 que c'était, c'était pas la bonne formule pour un hôpital qui est en soi une construction très complexe. La suite des choses a donné raison à ceux qui doutaient. Je veux juste, je vois que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Paul, mais je vais aller à Carl parce que je veux qu'il nous parle de cette rencontre de Justin Trudeau qui a invité tous les chefs d'opposition après-midi à s'asseoir. Ils vont se réunir autour d'une table pour parler de la situation des francophones en Ontario et de la francophonie en général. Ça, c'est rarissime, ça.
C'est rarissime, mais c'est une bonne nouvelle. Faut dire que c'était un peu l'initiative d'Andrew Scheer qui lui avait écrit une lettre à Trudeau pour demander une rencontre en tête-à-tête.
Exact.
Trudeau a décidé, on va élargir ça, on va amener les autres. C'est une bonne chose. À quoi on peut s'attendre? Ben, écoutons donc Justin Trudeau là-dessus et aussi le député conservateur Gérard Deltel.
D'abord, je vais écouter. Les différents chefs qui ont demandé cette rencontre-là. Je veux bien entendre leurs préoccupations et regarder quelles options qu'on va avoir. Ça va être une occasion pour moi de renforcer le fait qu'au fédéral, on doit toujours être là pour défendre les minorités de langues officielles à travers le pays. Je pense que j'ai vu un désir de la part de tous les partis d'être positif sur la défense de nos droits.
Vous savez, il y a la bataille politique qui est une chose, mais il y a d'abord les consensus qui doivent se dégager, puis des solutions. Alors, notre chef, évidemment, a quelques idées en tête. On va pouvoir les partager avec les autres chefs, tant mieux. Mais on salue le fait que M. Trudeau ait accepté l'invitation et l'idée faite par notre chef, Andrew Scheer.
Bon, fait que là, les conservateurs à Ottawa, évidemment, ils veulent se décoller un petit peu de Doug Ford. Ils veulent montrer que c'est pas parce qu'ils sont conservateurs qu'ils sont anti-francophones.
Exact.
Et Trudeau, lui, veut garder le leadership de l'affaire. Fait qu'ils ont comme une convergence d'intérêts entre ces deux-là. Là.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, la motion des conservateurs a été adoptée cette semaine. Là, finalement, il y a la voix unanime du Parlement s'est fait entendre dans le dossier.
Ouais.
Et là, on parle de consensus. Quel consensus qui émerge? Moi, la proposition que j'ai retenue la semaine dernière, c'est celle du NPD fédéral qui a dit, ben, est-ce que le gouvernement fédéral pourrait pas financer en plus grande partie cette université-là? Andrew Scheer s'est montré ouvert. Du côté de Mélanie Joly, on s'est reviré en disant « mais c'est la responsabilité du gouvernement ontarien ». Or, on a un problème, on a un gouvernement ontarien qui dit qu'on ne peut pas payer. Est-ce que le fédéral peut faire prendre de leadership puis aller ouvrir une institution comme ça?
Ça serait tout un précédent. Parce que si tu votes dans cette direction-là, puis tu dis le fédéral peut dorénavant ouvrir des universités, pas juste financer les infrastructures, mais financer le fonctionnement, pourquoi il viendrait pas faire la même affaire au Québec après, là?
Exact. C'est la boîte de Pandore que les libéraux ne veulent pas ouvrir.
Je comprends.
Mais est-ce qu'il y a moyen de négocier quelque chose précisément pour la circonstance actuelle?
Peut-être.
Au-dessus d'un demi-million de francophones en Ontario, pas une seule université francophone. C'est un problème.
On s'entend, c'est un problème. Puis ça fait longtemps qu'il la demande et qu'il l'espère. Puis il pensait l'avoir. Puis le gouvernement précédent s'est engagé à la construire. Et Doug Ford a tiré, comme on dit, la plug. Carl Bélanger, merci.
Bientôt.
Paul Journet, merci.
Merci.
On continue après la pause. On va parler notamment avec les parents du petit garçon de 14 ans là, qui s'est noyé. C'est quelque chose d'émouvant, ça.